18h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM.
Il est quasiment 7h45, nous sommes en direct évidemment et nous recevons ce matin le sénateur de l'Allier, Gérard Dériot, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin pour parler de cette période forcément particulière. On voulait prendre un petit peu le pouls, déjà voir à quoi ressemble l'emploi du temps d'un sénateur en cette période tout d'abord de confinement et puis de post-confinement. Là, comment ça se passe pour vous?
Ben écoutez, pour ce qui concerne le confinement, comme tout le monde, c'est-à-dire de rester effectivement confiné. Moi, je suis essayé depuis le premier jour du confinement. Et malheureusement, voir les jours passer en se sentant un peu désemparé, dans la mesure où vous n'avez plus votre activité habituelle, très vite, heureusement, les audio-vidéoconférences avec le Sénat se sont mises en place et permettent justement de pouvoir continuer et à être au courant des affaires qui se déroulent, mais aussi d'y participer également de manière plus directe avec, à travers les questions que vous pouvez poser. Mais je dois dire que ce sont quand même des périodes extrêmement longues.
Oui, forcément. Depuis la sortie du confinement d'ailleurs, est-ce que les travaux du Sénat ont repris un petit peu différemment ou vous continuez à privilégier audio et visioconférence?
On continue toujours en audio et visioconférence, sauf à partir de la semaine prochaine, où là, les travaux vont véritablement commencer, mais malgré tout, avec les problèmes que cela pose, c'est-à-dire l'obligation d'avoir qu'un certain nombre de parlementaires dans l'hémicycle, pour éviter les proximités, et tout cela, donc, complexifie un peu les choses, mais la véritable activité va redémarrer à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire c'est la sortie du confinement, malgré tout, et heureusement, parce qu'on est obligé de continuer, et surtout que les affaires, elles, bougent.
Ouais, bien sûr, il y a des choses importantes qui se décident, on va en parler. Ça veut dire que vous allez retrouver les bancs du Sénat dans les prochains jours?
Voilà, la semaine prochaine, mardi, voilà.
Ça va être ça. Avec quoi? C'est quoi le sentiment? C'est de l'enthousiasme, l'impression à nouveau de pouvoir être vraiment au cœur de l'action?
Alors oui, ça, effectivement, c'est aussi ce qui vous manque, c'est que vous n'êtes plus réellement au cœur de l'action, vous n'êtes plus plus près du déroulement de l'activité globale du pays. Et bien là, retrouver tout cela, c'est extrêmement important et je pense très utile, parce qu'on voit bien que les assemblées, elles ont tenu le coup malgré tout.
Alors justement, le Sénat, il y a quelques jours, avant la sortie du confinement, avait rejeté finalement le plan de déconfinement de l'État. Quel est votre point de vue, vous, vis-à-vis de cela?
Rejeté. On avait amendé, on avait modernisé, on avait modifié. Et finalement, le gouvernement s'était quand même rallié, et puis donc l'Assemblée nationale s'était ralliée justement à la préconisation du Sénat. Ça montre que le Parlement fonctionne, d'ailleurs le Parlement, Assemblée nationale plus Sénat, et qu'il se complète, ce qui est le but d'ailleurs dans la Constitution, c'est d'avoir deux chambres différentes qui puissent se compléter. Et à partir de là, on n'a pas rejeté, on a, je vous dis, modifié par rapport au texte initial, en l'enrichissant à mon avis et en le sécurisant.
Ouais. Quel point posait problème finalement avec lesquels vous n'étiez pas d'accord forcément?
Il y avait quand même que l'on redonnait à nouveau quand même les pleins pouvoirs finalement, ce que l'on a fait quand même au gouvernement. Ça fait quand même plus d'un an maintenant que pratiquement le gouvernement gouverne, c'est le cas, avec les pleins pouvoirs. C'est quand même un peu compliqué par rapport à la démocratie. Bon, donc il fallait mettre des bornes pour pouvoir bien le cerner. Et puis il y avait aussi la protection des élus. Car on voit bien que, heureusement, qu'il y avait les élus locaux, les maires, les conseillers municipaux, les conseillers départementaux et régionaux, pour pouvoir faire redémarrer réellement le pays, puisque ce sont eux qui ont supporté une grande partie, en particulier, du retour des enfants dans les écoles, avec le risque qu'on pouvait craindre. Et donc, à partir de là, ce sont les élus locaux, il fallait les protéger, parce que s'il y avait la moindre difficulté qui se produisait, le moindre accident qui se produisait, c'est quand même pas les élus locaux qui sont formés pour le faire. Ils le font parce qu'ils ont la volonté justement d'être utiles, ils le font parce qu'ils savent qu'il faut se dévouer pour tout le monde, mais on ne peut pas non plus les mettre en péril et puis après les condamner.
Justement, quel regard vous portez sur la manière dont le gouvernement gère cette crise sans précédent finalement?
C'est-à-dire, alors, si je parle de la crise réelle, la crise sanitaire au départ, ça a été quand même une grande approximation dans la mesure où on s'est retrouvé à ce moment-là avec les stocks de masques qui n'existaient plus, des médicaments qui servaient pour la réanimation qui n'étaient pas suffisamment nombreux. Enfin, vraiment, c'était de l'improvisation totale. Alors que je vous rappelle, les plans, justement, qui avaient été faits il y a quelques années, qui avaient été faits il y a maintenant, disons, depuis 2010-2011, qui avaient été faits à la suite, justement, de l'épidémie H1N1, prévoyaient toute cette organisation. Il y avait d'ailleurs un établissement qui avait été créé exprès à ce moment-là, qui s'appelait les Prusses, et qui était chargé de gérer les stocks de tout cela. Et, comme par hasard, dans le gouvernement Hollande, tout ça a été supprimé, et à partir de là, plus personne s'est occupé de regarder comment étaient gérés les stocks de ce qui était nécessaire pour faire face à une épidémie. Donc, de ce côté-là, évidemment, ça a été une surprise pour tout le monde, même si il y avait eu un rapport qui avait été fait au Sénat par un de mes collègues il y a 2-3 ans, montrant qu'effectivement, attention, les stocks étaient en train d'être laissés à l'abandon et qu'il faudrait peut-être faire attention, mais malheureusement, rien n'a été fait. Et puis alors, après, bon, le retour des enfants dans les écoles, ça a été plutôt bien géré, mais aussi grâce à l'action des élus, quoi, c'est-à-dire l'ensemble des élus locaux. Et finalement, ça a été plutôt bien géré, c'est tant mieux. Je reviens à mon histoire de masque, ce qui est quand même inquiétant, c'est ce qu'a déclaré le président de la République hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, qu'en fait, il n'y avait jamais eu de stock insuffisant.
C'est simplement, il a dit qu'il y avait eu des tensions, mais pas de pénurie.
Des tensions, mais voilà. Non, mais attendez, on se moque du monde, là. Enfin, franchement, c'est complètement invraisemblable. Je me demande par moments ce qui se passe. Mais peut-être qu'il a raisonné exclusivement pour l'hôpital. Ça, c'est possible, parce que là, il n'y a peut-être pas eu de manque réel, mais il y a eu des tensions très fortes par rapport aux masques, par rapport aux produits. Mais la santé en France, ça n'est pas que l'hôpital, c'est en particulier les cliniques privées, d'ailleurs, que l'on avait réquisitionnées, mais qui, pour la plupart, n'ont jamais été sollicitées. Et puis, la médecine de ville, entre les médecins, les infirmiers à domicile, les aides-soignants à domicile, enfin, tout cela, ça fait partie de la santé publique. Et donc là, par contre, les manques ont été flagrants. C'est invraisemblable d'aller dire ça après, de se trouver... Enfin, c'est du déni de réalité, quoi.
Ouais, c'est le gros point noir pour vous de cette gestion de crise.
C'était ça. C'était le fait qu'une crise, une épidémie en particulier comme ça, là, vous ne pouvez que difficilement la prévoir, même si, manifestement, on l'a su quand même très en amont. On l'a su dès le mois de décembre, faut bien ce qui se passait en Chine. Et là, on a trouvé le moyen de changer de ministre de la Santé en plein moment la difficulté. Et alors là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est invraisemblable. C'est quand même pas au milieu de que vous ne changez pas de bateau au milieu du gué, hein. Faut absolument être... peut-être qu'il y avait des choses à changer, mais ça, c'est logique, c'est normal. Mais on ne change pas de pilote, hein. Enfin bon. Et là, ça a été quand même extrêmement néfaste. Pour tout le monde, de toute façon. Puis rien que l'image, enfin l'image et la confiance que le peuple perdait, quoi, vis-à-vis du gouvernement.
Il y a justement une commission d'enquête parlementaire qui va être missionnée pour finalement débriefer un petit peu cette période-là. Ah, oui. Vous souhaitez y prendre part? Comment ça va se passer?
Ça, on verra. Hein. On verra. De toute façon, c'est à partir de la commission des affaires sociales du Sénat, puisque c'est une commission d'enquête parlementaire, mais du Sénat, parce que c'est quand même celle qui font jusqu'au bout des problèmes, et non pas escamoter pour faire plaisir à La République En Marche. On le saura dans le mois de juin, hein, puis on verra comment la répartition se fera entre les différents groupes.
Et il y a un autre sujet qui alerte les élus en ce moment, c'est ce fameux deuxième tour des élections municipales. Vous, quelle est votre position là aujourd'hui à dire est-ce qu'il faut le faire ou pas d'ici la fin juin?
On a eu la catastrophe du premier tour qui était une monstruosité, puisque avouez quand même que on décide de faire le premier tour des municipales et dès le lendemain, et on avertit la veille ou l'avant-veille, on avertit que on va avoir le confinement. Pensez bien qu'il y a eu une abstention terrible, parce que la plupart des gens ont dit « moi je vais pas aller me fourrer dans des affaires où je risque d'attraper une maladie dont je ne m'en remettrai pas ». Et donc là, pour le mois de juin, personne ne sait dans quelle situation sanitaire on se retrouvera. Moi, je pense que dans ces cas-là, mais enfin manifestement, on ne sait pas gérer les crises réelles, on prend le maximum de précautions, c'est-à-dire qu'on reporte le plus possible l'élection en particulier pour qu'il n'y ait pas ce contact avec peut-être une deuxième vague, peut-être, on ne sait pas, une deuxième vague de COVID-19. Mais vous savez, quand on dit gouverner, c'est prévoir, c'est dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il faut prendre la mesure de tout et prendre à partir de là ce qui a le moins de risques et qui est le moins mauvais. Qu'on reporte les élections municipales et la totalité des élections municipales, parce que le premier tour ne s'est quand même pas déroulé dans des conditions normales, eh bien, qu'on reporte d'un an, c'est arrivé d'autres fois. Et même s'il faut décaler d'autres élections, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien non, on est en train de s'arc-bouter sur quelque chose qui peut être très dangereux et qui finalement montrera peut-être qu'au mois de juin, on sera obligé de dire « Ah ben non, finalement, il y a eu un redémarrage où il y a eu suffisamment de clusters, c'est grave, c'est gênant, ce qui est vrai. » Et à ce moment-là, on dira « Bon, on va reporter. » Ben, reportons tout de suite, on n'en parle plus. Puis comme ça, le pays peut travailler.
Il y a la problématique des sénatoriales prévues l'année prochaine qui doivent d'ailleurs, qui concerne l'Allier, qui nous concerne évidemment.
Oui, ben pas l'année prochaine, c'est cette année.
Oui, 2020, septembre 2020, ça repousserait effectivement. Vous dites, voilà, c'est pas un problème ça.
Bah, ça m'est arrivé déjà d'avoir des élections sénatoriales reportées d'un an. Dans mon premier mandat, qui était un mandat de 9 ans, entre 98 et 2008, eh bien, entre 98 et 2008, eh bien, on a été reporté d'un an. Et alors, ça s'est passé. Mais pourquoi pas? Faut prendre des décisions, et pas des demi-décisions, puis en ayant peur de ce nombre, et surtout en faisant prendre des risques à la plupart des personnes qui seront des candidats ou qui seront des assesseurs. Vous savez, on a fait le principe de précaution il y a quelques années dans la Constitution. C'est peut-être gênant et embêtant par moment, mais d'un autre côté, c'était véritablement pour protéger finalement la population. Eh bien là, on est carrément dans cette situation. On ne sait pas, et ça on peut le reprocher à personne, puisque c'est un nouveau virus, une nouvelle diffusion, on peut se dire on ne sait pas, prenons les précautions, reportons les rassemblements qui sont effectivement la source de bon nombre de difficultés.
Merci Gérard Dériot d'avoir été avec nous ce matin.
Je vous en prie, merci.
Sénateur de
l'Allier. Bonne journée.
Merci d'avoir été avec nous. Interview évidemment que vous retrouvez, chers auditeurs, en podcast d'ici quelques minutes, 7h56 sur RJFM.
7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM.